Bonjour. La musique s'est arrêtée. Bonjour. Bonjour. Oh. Mathéo. Bonjour Mathéo. On y arrive quand même. Bonjour tout le monde. Les petits, les grands, les enfants, les adultes, les ados, les beaucoup plus âgés, dont je commence à faire partie. Bonjour à ceux qui sont joyeux, à ceux qui sont tristes, bonjour à ceux qui sont un peu déprimés, à ceux qui sont pleins d'entrain, qui ont des tas d'idées, ont envie de faire des tas de choses. Bienvenue à ceux qui se sont disputés avant de venir. Bienvenue à ceux qui ont passé un bon moment ensemble autour de la table à déjeuner. Bienvenue à ceux qui ont passé de bonnes vacances, ou pas, ou qui sont restés là à travailler. Qui que nous soyons, dans quelque état que nous soyons, c'est le Seigneur lui-même qui nous accueille aujourd'hui et qui se réjouit que nous soyons là. Bon, j'aimerais lire un texte dans la Bible. Vous savez ce que c'est la Bible ? Maxime, tu sais ce que c'est la Bible ? C'est un livre. C'est un livre qui a deux parties. L'Ancien Testament, qui raconte quoi ? Ouais. Il raconte l'histoire du peuple des Juifs avec Dieu avant la venue de Jésus. Et l'autre, le Nouveau, il raconte l'histoire de Jésus et après le début de l'histoire de l'Église. Et puis l'histoire de Jésus, il y a quatre personnes, quatre hommes qui ont raconté son histoire. Il y en a deux qui étaient parmi les 12 disciples. Jésus, il avait 12 personnes qui étaient très très proches de lui et il y en a deux, Matthieu et Jean, qui ont raconté son histoire, tout ce qu'ils ont vécu avec lui. Et il y a Marc qui était aussi un disciple mais pas si proche. Puis il y a Luc. Luc, il n'avait pas rencontré Jésus, mais il a rencontré beaucoup de personnes qui avaient entendu parler, qui avaient vécu des choses avec Jésus. Il a tout écouté très bien et il a tout raconté parce qu'il a trouvé que c'était très, très important que tout soit raconté au sujet de Jésus. Alors, je vais lire un passage que Luc a écrit. C'est un passage où Jésus est monté sur la montagne. Il a prié avec Dieu, qui était son Père. Il lui a parlé, ça veut dire qu'il lui a parlé, et ça veut dire qu'il l'a écouté. Et après, il a choisi les 12 personnes qui seraient le plus proche de lui. Et ensuite, il descend. Alors voilà ce que dit la Bible. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Nous qui sommes dans le besoin, nous qui sommes malades, pas bien, nous qui sommes tourmentés, en souci, nous sommes venus de tout Mérin, de tout Genève, de tout le pays environnant. Voyez, Jésus est descendu. Il s'est arrêté près de nous. Il vient nous parler et nous guérir. Nous prions. Seigneur notre Dieu, je te demande d'être présent au milieu de nous. J'aimerais te remettre chacun d'entre nous, afin que notre cœur et nos oreilles soient capables de t'entendre, de t'écouter. Tu nous connais. C'est avec ce que nous sommes là ce matin. Merci Seigneur, parce que tu as une parole bienfaisante pour chacun d'entre nous ce matin. Nous te remettons ceux qui ne sont pas là. Nous te remettons, nous pensons aussi à tous les chrétiens dans le monde entier qui te célèbrent aujourd'hui. Merci Seigneur d'être avec eux tous. Amen. Et maintenant, nous allons chanter.
Seigneur Jésus, si on est là, c'est parce qu'on a soif de toi, c'est parce qu'on a soif et faim de ta parole, de ton esprit, de ton action dans nos vies. Merci parce que tu nous donnes une église, merci parce que tu nous y retrouves. Merci pour ce privilège inestimable de pouvoir, nous, ta famille, nous retrouver ensemble avec toi. Chaque dimanche, pouvoir nous voir en dehors aussi, pouvoir savoir qu'on marche ensemble. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, pour qui tu es pour nous. Béni soit ton nom pour ce que tu as fait pour nous. Béni soit ton nom pour ton Église que tu prépares à ta vie. Amen. Le Seigneur règne. Le Seigneur Jésus, il règne dans nos cœurs. C'est un petit peu ça. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Et c'est ça qu'on veut dire quand on chante le Seigneur Tout-Puissant règne. Ça veut dire qu'il règne là-haut dans les cieux, comme on dit, mais il règne surtout dans mon cœur, il règne dans ma vie, et puis il change ma manière de me comporter. Et puis ça, ça change tout. Dans la famille, avec les copains, dans l'église, partout où on vit, partout où on est. À l'avant-dernier chant, mon secours est en toi.
Je lève les yeux vers les hauts sommets.
Rien ne pourrait égaler les promesses que tu as pour moi. Les enfants vont rejoindre leur groupe, mais avant, j'aimerais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, que ces promesses que tu as pour nous soient aussi dans la conscience des enfants. Quand ils sont dans la joie, qu'ils puissent dire merci. Quand ils ont peur, qu'ils puissent le dire. Quand ils sont fâchés, qu'ils puissent aussi t'en parler. Et connaître que tu réponds, connaître que tu es là. Sois avec les moniteurs, sois avec eux ce matin, que chacun puisse sentir ta présence. Amen. Alors nous vous souhaitons un très bon moment tous ensemble avec vos moniteurs. Vous pouvez aller. Les ados restent avec nous aujourd'hui parce qu'il manque un moniteur. Ah, ils ne sont pas pressés de partir aujourd'hui. Maintenant, on place à Célina qui a préparé le message pour nous. Nous nous réjouissons de l'entendre.
Oui, je veux bien prier pour toi.
Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te remettons pour Célina. Nous te remercions pour Célina. Nous te remercions de tout ce qu'elle est et de ce que tu as mis sur son cœur aujourd'hui. Que ta paix soit avec elle, que ton esprit l'accompagne, porte ses paroles. Merci, ô notre Dieu, parce que tu ne nous laisses pas seuls. Amen.
Merci. Bonjour à chacun. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Je vais commencer ce temps de message en me présentant brièvement. Je m'appelle Célina Imhoff, je suis actuellement en stage à la FRE en communication, formation, plus ou moins avec Serge Carrel qui est avec nous ce matin. Je suis également mariée à Joël et nous avons un petit garçon de 3 ans et demi qui est actuellement en train de profiter des jouets de la garderie, qu'il aime beaucoup. Pour ce matin, je vous ai préparé un temps accompagné d'images sur un PowerPoint. Donc ici, vous voyez un autoportrait de Giacometti, parce que c'est avec une de ses œuvres que nous allons vivre ce temps de message. Il y aura également quelques dessins de moi, deux. Vous allez vite voir la différence entre Giacometti et moi. Giacometti disait « Tout tient à un fil, on est toujours en péril ». Je pense que cette citation illustre bien l'œuvre avec laquelle nous allons vivre ce temps, ce matin. Voici l'homme qui marche, la sculpture la plus célèbre de l'artiste grison Alberto Giacometti. Vous l'aurez sans doute reconnue, elle figure sur notre billet de 100 francs. Il s'agit aussi sans doute d'une des... Pardon ? Ah oui, c'est vrai ! Vous allez regarder du coup. Il s'agit aussi sans doute d'une des sculptures les plus célèbres du XXe siècle. Elle a été créée en 1960 et cette sculpture représente ce qu'est l'homme dans son universalité aux yeux de Giacometti, dans toute sa fragilité et toute sa force, dans ce mouvement d'équilibre et de déséquilibre. Car avancer, c'est prendre le risque de tomber. Mais avancer fait aussi prendre conscience qu'une force est là pour nous tenir debout. C'est avec cet homme qui marche que je vous propose d'entrer dans ce temps de message, car je pense qu'il est à l'image de ce que vivent les apôtres dans les Actes. Cette étape de montagne, comme disait Philippe la semaine dernière, la montée de l'Alpe d'Huez, c'était ça. Pour remporter la victoire, les apôtres ont pris tous les risques et c'est ce que nous allons voir. Nous allons lire donc Actes 5, les versets 12 à 26 et ensuite la fin du chapitre 5.
Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en haute estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accouraient aussi des villages voisins vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes à leur arrivée ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple.
En lisant Actes 5, cette partie-là en particulier, on pourrait considérer que les apôtres courent à leur perte. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi prennent-ils autant de risques? En Actes 4, Pierre et Jean avaient déjà connu une première fois la prison et un procès. Et ils s'en étaient plutôt bien sortis, avec quelques menaces et une interdiction de parler du nom de Jésus. Et pourtant, ici, on les retrouve de nouveau au temple. Et ils annoncent le nom de Jésus et guérissent des malades. Ça marche. Beaucoup de monde viennent les écouter et bénéficier des bienfaits du royaume de Dieu. Des guérisons incroyables ont lieu là, dans le temple. ce temple qui était le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Ce temple où on pouvait espérer recevoir la guérison, le pardon des péchés et le salut. À condition, bien sûr, de remplir certains critères obligatoires. Et cela voulait dire que beaucoup de monde passait à la trappe. Des nécessiteux, des impurs, des aveugles, des boiteux, des démoniaques, des étrangers. Beaucoup de ces gens-là ne pouvaient pas accéder aux bénédictions de Dieu accordées par les prêtres du temple. Et j'imagine que cela explique en partie pourquoi les apôtres remportent un si grand succès. Parce qu'eux ne faisaient pas ce genre de distinction. Et tout comme Jésus, ils annonçaient la parole de Dieu à tous ceux qui avaient soif de l'entendre. Et on ne peut pas annoncer la bonne nouvelle de Dieu sans parler de Jésus. Et dans ce cas, cela voulait dire que les apôtres désobéissaient à l'interdiction du Sanhédrin. Le risque, le péril, c'est ce qu'ont rencontré les apôtres alors qu'ils ne faisaient qu'accomplir la mission que leur maître leur avait confiée. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lui qui était mort, est revenu à la vie pleine, entière et éternelle. Il est le roi promis qui inaugure le royaume de Dieu parmi les hommes. Les apôtres annonçaient le royaume de Dieu, donc, mais à quel prix ? L'enthousiasme, le succès et surtout le cœur du message de Jésus rendaient jaloux un bon nombre de grands gardiens du temple. En particulier les Sadducéens qui vivaient de l'argent versé de ceux qui voulaient obtenir une faveur de Dieu. Donc, une deuxième confrontation avec eux s'annonce. Les Sadducéens ne peuvent vraiment pas laisser Pierre, Jean et les autres continuer comme cela, avec leur message impossible sur la résurrection, avec toutes ces guérisons qui viennent en compétition des bénédictions du temple, et surtout le pire. Les apôtres défient délibérément leur autorité qui venait forcément, selon eux, de Dieu. En bafouant leur autorité, les apôtres sont coupables de blasphème. C'est ce que veut dire un peu le mot jalousie ici, zélos en grec. Le zèle des Sadducéens est piqué au vif. En touchant à leur autorité, on touche forcément à Dieu. Les Sadducéens sont bien décidés. Les apôtres de ce Jésus doivent payer les conséquences. Et cette fois, c'est toute l'équipe qui est arrêtée et mise en garde à vue pour une nuit en attendant le rassemblement du Sanhédrin pour le procès. Il fait sombre dans les geôles du temple. Les apôtres sont là, couchés par terre. Sans doute ne savent-ils pas quoi penser de tout ce qu'il se passe. Ils doivent se refaire l'histoire dans leur tête. L'ascension de Jésus, la venue du Saint-Esprit, les premières guérisons et cette église si solidaire en pleine fondation. Mais aussi la colère des religieux, la première arrestation de Pierre et de Jean. Et à présent, c'est leur tour à eux tous. Est-ce qu'ils s'en sortiront de nouveau ? Quelle sentence vont-ils avoir ? Est-ce qu'ils vont mourir ? La prison, est-ce vraiment cela qu'ils étaient appelés à vivre ? Le risque de persécution et de mort est bel et bien présent, comme l'avait annoncé Jésus d'ailleurs. Mais cette fois, ils le vivent concrètement. Peut-on être vraiment prêt à vivre cela ? À vivre tous les périls pour le nom de Jésus ? Voilà, dans cette prison, un groupe de jeunes hommes qui ne devaient pas avoir plus d'une vingtaine d'années. Peut-être moins de 20 ans pour certains. Alors ok, l'âge à l'époque de Jésus ne comptait pas exactement pareil que pour nous. Mais quand même, lorsqu'on a 20 ans, quels sont nos rêves, nos projets ? Et pour ceux qui ont passé cette vingtaine, vous, quels étaient vos projets à cette époque-là ? Un travail, des études, une famille ? Une mission spéciale que Dieu vous aurait confiée ? Et aujourd'hui, où en sont vos projets ? Comment les réalisez-vous avec l'aide de Dieu ? Et pour tous ceux qui n'ont pas encore eu ces 20 ans, quels sont vos projets, vos rêves ? Je parle de cela parce que pour que nos projets puissent se réaliser, il faut aller de l'avant, nous mettre en marche, nous engager et prendre un risque. sans toujours savoir où c'est que cela nous mènera, si nous réussirons ou pas, si les choses se passeront comme nous l'aurions imaginé. L'engagement de la vie, et en particulier quand notre vie, nous voulons la mener pour Dieu, nous ne pouvons pas toujours prévoir ce qu'il se passera et les situations complexes par lesquelles nous devrons passer. Mais je pense que des textes de la Bible comme celui-ci nous montrent comment il est possible de se mettre debout et nous engager dans la vie avec la confiance, la certitude que dans les hauts et les bas, le Seigneur nous accompagne et veille sur nous. Donc, les apôtres sont passés par la case prison. Et les enjeux sont grands, car c'est une question de vie ou de mort qui plane au-dessus de leur tête. Il fait noir, il fait sombre, et l'avenir est plus qu'incertain. Et puis, tout à coup, quelque chose brille dans l'obscurité et ils sont libérés. Ce temps de libération de la prison me rappelle étrangement la résurrection de Jésus. Tout comme Jésus a été libéré de la prison de la mort, de son tombeau d'obscurité, les apôtres ont été délivrés en pleine nuit de leur prison. Des anges avaient également accompagné les événements de la résurrection de Jésus. Il y a une belle image d'espérance qui donne la force d'aller de l'avant, même lorsque ce que Dieu demande est très risqué. Jésus nous précède dans ces moments, il nous montre le chemin. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Comme dans beaucoup de textes de Luc, l'ange est toujours là pour secouer un peu, comme à l'ascension avec les apôtres. Ici, il leur demande d'aller au temple. Allez, vous avez du pain sur la planche. Sortez de la prison, sortez de l'obscurité, parce que vous avez en vous la lumière, la parole, la résurrection et la vie. Annoncer les paroles de la vie, ce n'est pas une question de blabla, comme si les apôtres devaient faire un exposé ou un discours. Il s'agit d'incarner cette parole, prendre le risque de l'amener en milieu hostile. La lumière luit dans les ténèbres, disait Jean. Les apôtres, au petit matin, retournent donc au temple et prononcent le nom de Jésus. Et quand la parole de Dieu est annoncée, un nouveau jour se lève. Cette image de la prison est d'autant plus interpellante que l'on sait que dans le cas de la rédaction d'une partie des lettres de Paul et aussi de l'influence que Paul a eue sur Luc, justement dans la rédaction de Luc et Actes, Paul était justement en prison. Il n'y a aucune prison qui peut contenir la puissance de la parole de Dieu. C'est ce qui peut donner la force aux apôtres d'aller de l'avant, de marcher malgré la fragilité de leurs conditions, malgré la force de l'opposition. Dieu leur donne la force, le mouvement et l'équilibre pour avancer. Maintenant, nous allons entrer dans la fin du chapitre 5, avant d'entamer le temps du procès.
Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant : Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. » En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été dispersés. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie.
Le temps du procès est arrivé, mais impossible de mettre la main sur les apôtres qui se sont mystérieusement volatilisés de la prison. Cette libération de l'ange vient ajouter une couche à la colère des Sadducéens. Les pauvres, ils ne croient ni à la résurrection ni aux anges. Nous verrons l'ange intervenir une fois de plus en acte 12 pour libérer Pierre. Luc, je pense, cherche à montrer tous ces détails pour souligner la croissance de l'adversité que représentent les autorités. Les apôtres sont de nouveau envoyés en terrain dangereux. Ils risquent tout. Dans le temps du procès, une des choses que le grand prêtre leur reproche, c'est de porter sur eux la culpabilité de la mort de Jésus. Pour les Sadducéens, la vie de Jésus s'arrête à sa mort. Pourquoi en faire tout un foin et créer l'émeute à Jérusalem pour un gars qui est mort? Mais pour les apôtres, la résurrection de Jésus est leur raison d'être et de vivre. Et ça change tout. Pierre, en quelques phrases, rappelant aussi ce qu'il avait dit lors de son premier procès, parle de son devoir d'obéissance. Du moment que nous avons vu et vécu toutes ces choses en compagnie de Jésus, nous n'avons pas d'autre choix d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il explique aussi que Dieu a élevé Jésus au-dessus de toute autorité, que c'est lui en ce lieu et dans le monde entier qui donne aux hommes la repentance et le pardon des péchés. La clé des cœurs humains n'est donc pas entre les mains du grand prêtre, mais dans celle de Jésus. Dans ce procès, les apôtres se portent donc témoins de Jésus. Les rôles sont un peu inversés, là. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Le Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu, est avec eux, en tant que témoins. Ces phrases vont déclencher à nouveau le désir de meurtre chez le Sanhédrin. La peine de mort est à deux doigts de tomber. Et si l'histoire devait s'arrêter là, on se demanderait pourquoi l'ange les a incités à retourner au temple pour finalement y trouver la mort. C'est alors que parmi les 70 sages d'Israël, les 70 juges d'Israël, se lève un sage parmi les sages du nom de Gamaliel. Paul nous le présentera plus tard comme étant son maître, celui qui lui a enseigné les Écritures. Dans ce conflit qui oppose les apôtres au Sanhédrin, il y a ici un enjeu bien sûr capital. Il y a un bras de fer qui se joue sur l'origine des autorités des deux groupes. Est-ce que le Sanhédrin tient son autorité d'origine humaine? Et c'est ce que pensent bien sûr les apôtres. Le Sanhédrin pense exactement la même chose au sujet des apôtres. Après avoir fait sortir les apôtres de la salle, Gamaliel se lève et donne deux exemples de révoltes récentes sous la conduite de prétendus messies. L'un s'appelait Thédas et l'autre Judas le Galiléen. Ces deux hommes avaient réussi à convaincre beaucoup de monde d'être le fameux messie attendu par Israël. Et ils avaient mené des révoltes pour libérer le pays. Dans ce climat de guerre, les deux hommes sont morts et leur mouvement s'est dispersé. Pour Gamaliel, il a vu que le messie de ce mouvement auquel appartiennent Pierre et Jean, Jésus de Nazareth, donc, est mort. Il a cependant encore ses disciples. Et le problème, c'est qu'il ne semble pas que depuis la mort de Jésus, ce mouvement s'essouffle. Bien au contraire. En plus, le messie qu'annoncent Pierre et Jean ne ressemble pas du tout à Thédas ou à Judas le Galiléen. Il n'a jamais mené de révolte armée. Et ça, je pense que Gamaliel l'avait aussi remarqué. Du coup, deux options sont possibles. Soit ce mouvement disparaît comme les autres, et cela signifierait qu'il était donc d'origine humaine, soit ce mouvement vient de Dieu et le Sanhédrin ne pourra pas le détruire. Et pire, il risque de se retrouver dans la position d'être des ennemis de Dieu. La parole de Gamaliel a convaincu l'Assemblée ce jour-là. Il s'est révélé être un allié. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les Actes. Les apôtres, de par leur obéissance, se retrouvent confrontés à une situation dangereuse. Et tout à coup, une aide inattendue arrive. Les apôtres repartent libres, mais le Sanhédrin continue à leur interdire l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Et contrairement au premier procès, les apôtres ont été battus. À partir de ce moment, et pour la suite des Actes, la violence ne sera pas que des mots menaçants, elle sera physique. Et bientôt, en acte 7, la mort va frapper un des membres de ce mouvement de Jésus, Étienne. La persécution, le péril, le risque, les menaces, les coups, la mort mettent définitivement en évidence la fragilité de ces hommes. Je suis revenue en arrière. Pardon. Voilà. Tout comme l'homme qui marche, tout ne tient qu'à un fil. Un choc, un accident de parcours et tout pourrait s'écrouler. Oui, mais il y a une dimension qui échappe à l'homme et qui est totalement entre les mains du Seigneur. Le mandat de vie et d'annoncer la vie a été confié à des hommes faibles, comme les apôtres, comme nous. Mais Dieu est là, et dans ce texte, c'est plus que visible. Ils sont ces hommes qui marchent en regardant droit devant eux. Ils portent cette vie qui défie la mort. Ce n'est pas la crainte, d'ailleurs, qui habite le cœur des apôtres en quittant le procès et la torture. C'est bien la joie et la célébration qui sortent de leur bouche et de leur cœur. Car ils marchent dans les pas de Jésus. Ils sont fragiles tout comme nous, mais Dieu les porte au travers de tout cela, que ce soit dans la joie d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, de voir des milliers de personnes vivre le pardon, les guérisons et s'ajouter à leur famille, et au travers de moments d'épreuve, même les plus périlleuses. Rien ne peut désormais les arrêter. Pour finir ce temps de message, je voulais vous lire deux versets du psaume 37. Que cela puisse vous encourager dans tout ce que vous entreprendrez sous le regard de Dieu. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Amen.
protection pour ce passage, qu'on entend trop fort. Pour repasser ces paroles dans notre cœur, pour nous demander ce que ça veut dire pour nous demander ce que le Seigneur fait pour nous aujourd'hui dans ces situations, pour nous demander comment on veut lui répondre, pour lui demander comment on veut vivre par rapport à ça. C'est un texte qui est plein de promesses, qui est plein de réflexions à faire. Et on vous invite simplement à... Pendant qu'on chante le chant qui va nous emmener vers la Sainte-Seine, on vous invite à repasser ces choses dans vos cœurs.
C'est toi qui as reçu les coups que je méritais. Sur toi qu'est tombée la colère qui me revenait. Et c'est par tes blessures que je suis guérie. C'est par ton sang que je suis libre aujourd'hui. Ce sont tes larmes qui m'ont touché. Ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire. La majesté et l'honneur pour l'éternité. C'est toi qui as couvert ma honte et ma nudité. De ton amour et ton pardon, de ta vérité. Ton sacrifice que je suis racheté. Sur la croix tu m'as offert ta liberté. Ce sont tes larmes qui m'ont touché. Ta compassion qui m'a lavé. Toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité. C'est toi qui as été trahi et abandonné. C'est toi qui as été brisé pour tous mes péchés. Et ce sont ces mêmes mains que les hommes ont percées, que tu as tendues vers moi pour me relever. Ce sont tes larmes qui m'ont touché. Qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité.
Pierre et les apôtres ont répondu en disant « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Quand j'ai lu le texte d'aujourd'hui, j'ai été frappée au début de voir que les gens n'osaient pas s'approcher des apôtres, presque comme le peuple n'osait pas s'approcher du Sinaï quand Dieu y était. C'était comme s'ils faisaient des apôtres des dieux. Et puis, ça touchait à la superstition que les malades puissent toucher l'ombre de Pierre. Et quand j'ai lu ce passage où les apôtres affirment leur foi, je me suis dit, mais n'est-ce pas un rappel? N'est-ce pas la mise en évidence que l'important, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la foi, les apôtres, l'important, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui a couvert ma honte et ma nudité, de son pardon, de son amour, qui a révélé la vérité. Quand nous prenons la Sainte Cène, celui qui prend la Sainte Cène dit « Je crois ». Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de ce que tu es venu faire sur la terre. C'est un cadeau qu'il nous a donné dans un vase précieux que nous sommes. Un cadeau si précieux qu'il est plus important que la peur. C'est ce que nous pouvons vivre à l'intérieur de nous. Il ne s'agit pas d'obéir à une loi, c'est de laisser ce cadeau prendre de la place dans notre cœur. Et nous en remercions le Seigneur. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit : J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit : Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui a été fixé.
Seigneur Jésus, je te remercie pour cette vie que tu nous as donnée, cette vie nouvelle, pleine, entière. Merci parce que ce soit dans les hauts et les bas, tu es là avec nous. Tu nous précèdes, tu nous accompagnes, tu nous donnes cette force. Je te prie, Seigneur, que nous puissions apprendre toujours plus à faire rayonner ta gloire en nous, Seigneur. Amen.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de Jésus-Christ. Ce pain qu'il a mangé avec ses disciples pour rappeler la Pâque, la délivrance de l'Égypte, de l'esclavage. Ce pain qu'il a donné pour notre vie.
La coupe de vin rappelle le sang de l'agneau qui a été versé pour protéger les Israélites de la mort. Il nous rappelle que le pardon nous vient de la mort de Jésus, que le sang a coulé et que nous sommes pleinement pardonnés. Si notre conscience nous trouble, le Seigneur est plus grand que notre conscience. Ce qu'il a dit est vrai. Amen. Est-ce que Joël pourrait venir pour nous aider à distribuer ? Véronique ? Et Lionel ? Dans les verres de couleur, vous avez le jus de raisin, autour le vin. Et si quelqu'un aimerait la coupe, qu'il fasse signe à Célina ou à moi. En lien avec les chrétiens du monde entier, je vous propose de prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous aussi, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est le moment de l'offrande. Nous prions. Seigneur, cet argent que nous donnons pour ton Église, c'est un peu une façon de dire merci parce que nous avons
la confiance qu'avec toi nous tiendrons. Merci pour ce que tu nous donnes. J'aimerais te dire merci au Seigneur aussi pour tous ceux qui ont donné. Merci de leur générosité qui fait vivre ton Église, tes ministres. Bénis toutes les personnes qui en bénéficieront. Amen. Les annonces.
Alors, bonjour. Alors, il y a le nouveau mémo donc pour le mois de mars-avril qui est disponible. Alors, normalement, vous allez le recevoir par mail ou il y a les enveloppes. Et si, par hasard, vous ne le recevez pas, il y a des exemplaires dans sur le présentoir à la sortie. Alors, servez-vous si vous ne les recevez pas. Autrement, il y a toutes les infos sur le site de l'EEM. Cette semaine, alors, mardi soir, prière communautaire animée par Claude Becher, ouverte à tout le monde, donc dans le local du groupe de jeunes en bas. Jeudi 28, rencontre du conseil. Le vendredi 1er mars, catéchisme pour les jeunes ados 12 à 15 ans. Ainsi. Et dimanche prochain, c'est le culte avec le CTT, donc notre groupe de jeunes, qui nous fera un retour du camp de ski. Contrairement aux habitudes, le premier dimanche du mois, il y a un repas canadien. Cette fois, il n'y en aura pas, mais vous pouvez vous rattraper parce qu'il y en aura un les deux dimanches suivants. Samedi, donc le 2 mars, c'est la journée œcuménique de formation avec le Père Pierre Aimonet, jésuite, au château de Bosset, avec le thème de la loi au discernement. Donc, c'est une journée de formation ouverte et qui concerne les trois communautés catholiques, protestantes et évangéliques de Mérin. Il y a des papiers encore, des feuilles sur le présentoir avec toutes les informations, tous les renseignements et bulletins d'inscription. Les inscriptions, c'est jusqu'à demain. Alors, dimanche prochain, il n'y a pas de repas canadien, mais il y aura quand même une animation l'après-midi, un concert. Je laisse Thierry.
Voilà, oui. J'ai le plaisir de vous annoncer une bonne nouvelle, donc la venue de Gospel Spirit, dimanche prochain, 3 mars à 17h. Donc Gospel Spirit, c'est donc une trentaine de choristes, dont Catherine Meyer, moi-même, et pour cette année, la nouvelle, c'est Sylvie Barral qui vient nous rejoindre. Et donc, on a à cœur vraiment de chanter la musique gospel, comme le nom l'indique, avec l'esprit de l'Évangile, donc avec beaucoup d'émotion. Donc, si vous aimez le gospel, n'hésitez pas de venir. Le registre change chaque année, donc il y aura toujours des nouveaux chants pour ceux qui ont l'habitude de nous entendre. Et donc, cette année est spéciale parce qu'on va faire, en fin d'année, un grand spectacle musical sur l'histoire de la musique gospel. Et donc, pour soutenir ce spectacle, on fait ce concert de soutien. Donc, il y a un chapeau à la sortie. Et puis, l'entrée est libre, bien sûr. Et puis, il y aura aussi un petit apéritif avec de vente de pâtisserie, boissons, vin chaud, jus de pomme chaud, boissons. Donc, un petit moment convivial aussi à passer ensemble. N'hésitez pas de faire de la pub aussi. Il y a des flyers à disposition pour vos amis, vos familles. Prenez-les et puis faites de la pub. Ce sera un bon moment à passer ensemble pour dimanche prochain à 17h. Merci.
Alors, on vous rappelle, encore une fois, le dimanche 10 mars, rêver et construire la famille de Dieu. L'enfance, c'est l'affaire de tous. Donc, c'est une journée importante, ouverte à tout le monde. On a besoin de tout, des idées de vous tous. Le mardi 12 mars, donc les GBU vont proposer aux étudiants la quatrième édition du Big Question, donc les grandes questions, une série de conférences qui auront lieu à Unimail du 11 au 14 mars. Et les GBU nous ont à nouveau sollicité pour une aide pratique et nous allons de nouveau cette année leur préparer 150 sandwichs. Alors, pour préparer ces sandwichs, nous aurons besoin de 6 personnes, mardi 12 mars, de 8h30 à 10h30, là dans le foyer. Alors, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Claire-Lise Serex. Et sur dans le foyer, il y a une feuille sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Donc, le mardi 12 mars, 8h30, 10h30. Merci d'avance pour les bénévoles. Dimanche 17 mars, le colloque. Donc, il y aura un repas canadien et à 14h15, le colloque, donc notre assemblée générale, avec des sujets très importants. Il y a les enveloppes sur la table à la sortie. Alors, n'oubliez pas de prendre ces enveloppes. Merci. On vous a déjà parlé de camp famille dans la Drôme et il y a encore quelques places disponibles. Alors, vous pouvez toujours vous adresser à Philippe Anchaud si vous êtes intéressé. Vous savez maintenant ce que vous voulez faire pour vos vacances. Mais ouvert à tous. La famille large. Voilà. Le premier jeudi du mois, groupe d'hommes, donc les prières pour refaire. Il y avait eu pendant quelques années, c'était tombé un peu à l'eau, et maintenant. Quelques messieurs ont l'envie de reprendre ce groupe. Alors, ouvert à tous les hommes, le premier jeudi du mois. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Alexandre Paulet. Encore une deux annonces. Alors, vous avez peut-être vu en entrant sur la table que dans le foyer, il y a passablement d'objets qui ont été trouvés dans les locaux. Alors, jetez un œil en sortant, voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous appartient. Il y a même un magnifique manteau de dame. Alors, si vous connaissez une dame qui cherche son manteau, c'est peut-être celui qui est sur la table, puis qu'elle serait peut-être contente de le retrouver. Même qu'il fait beau, on en a encore besoin. Comme on ne peut pas annoncer tout ce qu'on reçoit, toute la pub pour les conférences, les expositions, les concerts, et toutes sortes de ou des lettres de nouvelles, on les affiche sur le panneau alors, et sur le présentoir. Alors, de temps en temps, jetez un œil. Il y a certainement quelque chose qui vous intéresse. Voilà, bon dimanche.
Je vous prie de vous lever pour conclure ce culte avec une bénédiction. On dit bénédiction irlandaise. Que la route s'ouvre à ton approche. Que le vent souffle toujours dans ton dos. Que le soleil inonde et réchauffe ton visage. Que la pluie ruisselle dans tes champs. Que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu te garde dans la paume de ses mains. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.